Alors, nous allons continuer par une conférence de Karim Gerbi sur les interfaces cerveau-machine. Donc, Karim Gerbi est chercheur dans une unité de Lyon de l'INSERM qui va s'ouvrir sur les neurosciences. C'est quelque chose qui va... D'accord, donc vous nous expliquerez exactement... Donc, bon, on va vous laisser la parole sur les interfaces cerveau-machine pendant 20 minutes.
Merci. Bon après-midi à tous. Alors, il s'agit d'un laboratoire INSERM de dynamique cérébrale et cognition. Et à partir de janvier, on fera partie d'un nouveau centre de neurosciences à Lyon. Donc, c'est une nouvelle création de centre, mais le laboratoire... tel qu'il existe aujourd'hui, existait depuis longtemps et fait un travail reconnu dans le domaine de l'électrophysiologie et l'étude de la dynamique cérébrale et son lien avec la cognition humaine. Donc c'est surtout chez l'homme, mais on travaille aussi avec l'animal de temps en temps, mais c'est spécifiquement homme. Alors je suis très content aujourd'hui d'avoir cette opportunité de vous parler des interfaces cerveau-machine. Alors c'est une opportunité et aussi c'est une tâche un peu lourde aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire parfois sur les interfaces cerveau-machine. Surtout quand on le voit sous l'angle de la science-fiction, comme on est aujourd'hui dans ce festival, qui ne représente pas souvent la réalité des choses. Donc je vais essayer un peu de vous guider là-dedans et de vous donner un petit peu la vision d'un chercheur dans ce domaine-là par rapport à ça. Mais après, ça n'empêche pas que pendant les questions, on pourra parler aussi de spéculation sur l'avenir des choses. Alors voilà. Le plan de cette présentation, je vais vous parler d'abord définir pour vous ce qu'est une interface cerveau-machine. Après, on va regarder des exemples de communication par la pensée. Je vais vous parler d'études qu'on fait entre Lyon et Grenoble sur l'étude du cerveau en temps réel, en prenant un exemple d'une plateforme qu'on a développée qui s'appelle Brain TV. Un petit mot sur les ICM et leur lien avec les jeux vidéo, et puis quelques considérations éthiques qui me paraissent assez importantes. Alors, c'est quoi ? Alors on pourrait définir la chose comme suit. C'est un système qui permet une communication directe entre un cerveau et un dispositif externe. Alors le dispositif externe, il peut être un ordinateur, ça peut être un bras robotisé, ça peut être autre chose. Donc c'est une interaction entre les deux. Voilà ici par exemple une prothèse de main. Mais alors bien sûr, c'est bien direct, mais ce n'est pas direct à ce point-là. On va passer par une interface cerveau-machine. Alors l'interface, elle ressemble à quoi ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer l'activité cérébrale à l'aide d'un système d'acquisition. Ce qu'on va utiliser en général, c'est l'EEG, l'électroencéphalographie, qui va mesurer au niveau du scalp l'activité du cerveau. Ensuite, on va passer par une phase de traitement de ces signaux-là. Aussi, ce qu'on pourrait appeler une traduction ou alors un décodage. Donc, on va traduire l'intention du sujet donc via cette information-là ou alors décoder son intention. L'information est ensuite reliée au système qui va afficher une information voulue par le sujet. Donc là, je vais vous montrer un exemple un peu plus concret. Là, c'était encore un peu abstrait. En concret, ce qu'on utilise souvent donc dans la littérature, on voit l'utilisation d'un pilotage de mobile par imagerie motrice. Alors, ce que ça veut dire, c'est que le sujet, lui, va s'imaginer qu'il fait un mouvement. Alors, un mouvement de la main droite, par exemple, ou alors un mouvement de la main gauche. Il n'y a pas de mouvement réel exécuté. On va enregistrer pendant ce temps-là l'activité électroencéphalographique du sujet. On a des algorithmes qu'on appelle des algorithmes de classification qui vont essayer de dire « cette activité-là, elle ressemble plus à une activité qu'on a typiquement quand on veut imaginer un mouvement à droite ou alors à gauche. » Et cette information-là, après, va se traduire sur un déplacement d'un curseur sur un écran. En gros, vous imaginez un mouvement de la main droite, le curseur se déplace à droite. Et inversement, bien sûr, dans le cas où ça marche, où l'algorithme fait bien son travail. Mais encore, comment ça marche ? Comment est-ce que l'ordinateur, lui, comment il sait que c'est une activité qui veut dire imagerie à droite ou à gauche ? Pour vous expliquer ça, je suis obligé de passer un peu par la physiologie. Là, ce que je vous montre ici, c'est l'activité cérébrale de notre cerveau. Toutes les régions en bleu sont les régions qui sont actives quand on fait un mouvement de la main. En l'occurrence, ici, c'est une main droite qui bouge. Vous voyez, il n'y a pas que le cortex moteur, il y a tout un tas de régions qui sont actives pendant cette tâche-là. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est le même cerveau, mais en montrant les régions qui sont actives quand vous imaginez faire le même mouvement. Alors, il n'y a pas d'exécution, vous imaginez faire le même mouvement. Et voilà ce que vous voyez ici. Donc là, ça donne une idée de quand même, il y a quand même pas mal de ressemblances entre ce que fait votre cerveau quand vous imaginez un mouvement ou alors ce qu'il fait quand vous exécutez un mouvement. Et c'est ça qui nous intéresse, parce que pour les interfaces cerveau-machine, on ne veut pas de mouvement réel, on veut que du mouvement virtuel, de l'imagerie, et la machine doit le comprendre. Donc on va se baser sur ce genre d'activité-là. Si vous faites une comparaison directe entre les deux, ça vous donne des régions en bleu qui sont des régions qui sont actives à la fois dans l'imagerie et dans le mouvement, et en rouge uniquement dans l'exécution. Mais je ne veux pas rentrer plus en détail, on pourra y revenir après si ça vous dit. Bon, alors j'ai dit, on va mesurer l'activité du cerveau pour la traduire dans une. On va la donner à la machine qui va elle, traduire l'intention du sujet. Mais la question qu'on se pose, on peut mesurer l'activité cérébrale, vous savez très bien, soit en IRMF par exemple, avec la résonance magnétique, avec d'autres types de mesures comme le G, comme d'autres. Donc, quel est le signal qui va nous intéresser le plus, qui sera le plus pertinent pour faire fonctionner une interface cerveau-machine? Alors, ici, je vais vous montrer le choix qu'on a, différents types de signaux électrophysiologiques. Celui que vous connaissez sans doute le mieux, l'électroencéphalographie. Donc c'est là où on positionne des électrodes à la surface de la tête. La magnétoencéphalographie. Donc c'est le pendant de l'électroencéphalographie, sauf qu'au lieu de mesurer l'activité électrique du cerveau, ce qu'on va mesurer, c'est l'activité magnétique. Alors on pourra revenir après, j'ai pas trop de temps, donc je vais pas trop rentrer dans la neurophysiologie des choses, mais après, si vous avez des questions, on pourra y revenir. Alors, deux autres types de mesures sont l'électrocorticographie et la stéréoélectroencéphalographie. Dans ce cas-là, c'est des méthodes invasives. Donc on va positionner une grille d'électrodes directement sur la surface du crâne. Dans le cas de la stéréoélectroencéphalographie, ça n'a rien à voir avec une chaîne IFI. C'est une électroencéphalographie stéréotactique où on va insérer des électrodes, comme vous voyez ici sur cette IRM, à l'intérieur du cerveau qui vont traverser différentes régions. Alors bien sûr, rassurez-vous, on ne fait pas ça avec des sujets sains. Ce sont des patients épileptiques en général qui sont à l'hôpital pour leur maladie et pour une évaluation préchirurgicale. Et finalement, encore en invasif, l'enregistrement avec des microélectrodes. Et ce qu'on fait ici, c'est tout simplement mesurer l'activité directement au niveau du cortex, mais en essayant de détecter l'activité de chaque cellule plutôt que d'une région. Donc c'est plus précis, mais bien sûr c'est plus invasif et plus difficile à avoir. Alors, on a deux groupes donc, le non-invasif et les méthodes invasives. Alors, première question quiz, qu'est-ce que c'est à votre avis? Je vais vous donner un petit indice. Alors, ce n'est pas un tapis de fakir. Ou alors, le fakir, il doit être micro-fakir, tout petit. Vous voyez ici, c'est 2 mm cette taille ici. Donc, ça vous donne une idée sur la taille de cet objet. Et en fait, c'est ce qui nous permet, ce sont les électrodes qui vont nous permettre de mesurer l'activité, dans l'occurrence, chez ce patient-là. Vous voyez ici la position où l'électrode a été insérée au niveau du cortex moteur primaire pour enregistrer et permettre le décodage de l'intention motrice de ce patient. Alors, il faut savoir, ce patient-là, c'est un patient tétraplégique. Donc, cette étude-là a été publiée en 2006 dans la revue Nature et qui a été pas mal médiatisée. C'est un patient tétraplégique qui arrivait via ce dispositif de contrôler en 2D un curseur sur un écran. Donc, je vais essayer de vous montrer quelques exemples si la vidéo marche. Mais en gros, le principe, il est suivant, pareil, il va passer par l'imagerie motrice. Donc il imagine que le curseur bouge ou alors qu'il est en train de faire bouger le curseur. L'activité est enregistrée au cortex moteur primaire. Et après, elle passe par un système de décodage qui va faire bouger le curseur comme le sujet le souhaitait. Alors là, je vais faire une petite pause pour passer sur les vidéos. J'espère qu'elles vont marcher. Alors, donc ce que vous voyez, c'est le contrôle de la boule bleue uniquement par la pensée, donc par les intentions motrices de ce patient tétraplégique. Il a des obstacles à essayer d'éviter et puis des objets à avoir. Vous voyez, c'est pas parfait, mais il arrive. Et voilà. deuxième exemple à vous montrer. Alors ici, par la pensée, donc par l'activité de son cortex moteur primaire mesurée par les microélectrodes que je vous ai montrées tout à l'heure, ce qu'il essaie de faire, c'est ouvrir et fermer. Donc c'est, alors, ça a l'air un peu plus impressionnant comme ça, mais en fait, on est en train de décoder une information binaire. C'est 1 ou c'est 0 ou 1, et qui va faire en sorte que cette prothèse s'ouvre ou se ferme selon la volonté de ce patient tétraplégique. Alors, deuxième question, quiz. Vous attendez pas à une soirée quiz, hein. Ah, malheureusement, c'est coupé. On ne voit pas le début. Mais vous peut-être le deviner. Et mon pointeur ne marche plus non plus. C'est pas grave. Alors, vous avez une idée du mot qui manque? Exact. C'était bien intention. Alors, qui, pour réviser votre... C'est bien sûr de Pierre Desproges, et ça m'amène donc au concept d'intention, et c'est bien ce qui nous intéresse ici dans les interfaces cerveau-machine. Comment deviner l'intention d'une personne? Surtout, par exemple, le cas le plus classique que vous connaissez peut-être aussi, c'est dans le papillon et le scaphandre, vous avez quelqu'un qui a un locked-in syndrome, donc qui a un syndrome d'enfermement, et qui, on veut l'aider à communiquer avec le monde extérieur. Alors, une approche, c'est ce qu'on appelle le P300 Speller, que vous voyez ici. Et l'idée, c'est quand le sujet va voir flasher des lettres, il va porter son attention sur une lettre précise. Par exemple, il veut la lettre O. Donc, il va porter son attention sur la lettre O. Toutes les lettres vont être flashées en colonne et en ligne. Je vais vous montrer comment ça se passe dans un instant. Et la machine a pour rôle d'essayer de détecter le moment où le sujet a dit « oui, c'est bien celle-là ». Et c'est ça qui va permettre de détecter les lettres pour créer le mot. Alors, vous voyez un petit peu la vitesse à laquelle ça va. Donc lui, il porte son attention sur une seule lettre, mais les colonnes et les lignes sont flashées à une vitesse assez rapide. Et à chaque fois que la colonne ou la ligne qui est flashée contient la lettre à laquelle il est en train de faire attention, il y a une réponse spécifique dans son cerveau qu'on appelle le P300, parce que ça arrive à peu près à 300 millisecondes après l'affichage du stimulus. Et c'est ça qui va permettre à la machine de mieux comprendre. Alors, je vous montrerai notre sujet phare. Donc, c'est le sujet on a fait passer ça à plusieurs personnes. Et finalement, on a un sujet qui arrive à des performances très fortes. La performance ici est mesurée par la vitesse à laquelle on arrive à écrire un mot. Bien sûr, parfois, ça prend plus de temps. Et l'idéal, pour que ce soit un outil qui soit vraiment utile pour des patients, il ne faut pas que ça prenne trop de temps pour écrire un mot, parce que sinon, ça va être trop fatigant pour le patient. Donc, je vais montrer ici notre sujet qui va essayer d'écrire le mot play, jouer. Alors c'est un peu sombre, je ne sais pas si vous voyez. Alors le sujet est ici à gauche.
Et ça te fait bling. Voilà, ça revient ton attention.
Et bien si on est capable d'avoir un indice de détection un peu de la qualité de cette réponse en nouvelle, alors
c'était le temps que ça a pris pour écrire un mot play, donc là. C'est un sujet qui a été pas mal entraîné. On peut envisager aussi que chez les patients, avec un minimum d'entraînement, ils arrivent à utiliser ce système. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comment ça marche? Tout simplement, le sujet porte son attention sur une lettre. Le système d'acquisition, en l'occurrence l'EEG, va détecter un signal. Ici, c'est un signal qui est assez petit. Par contre, quand la lettre qu'il veut, par exemple ici la lettre Y, est bien dans la ligne flashée, la réponse va être plus ample. Donc il n'y a pas de magie, c'est uniquement ça. Et s'il y a suffisamment de répétitions, ça permet à la machine de faire ce qu'on appelle une classification pour trouver la réponse. Alors dans cette troisième partie, je vais vous parler de l'utilisation qu'on fait entre Lyon et Grenoble des données EEG intracrâniens pour faire avancer la recherche de marqueurs, de nouveaux marqueurs pour les interfaces cerveau-machine. Donc je vais vous parler de Brain TV et de Brain Ball. Alors, la première plateforme qu'on a mise en place s'appelle Brain TV. Et en fait, voilà à quoi elle ressemble. Ici, on est au CHU de Grenoble, une patiente implantée avec des électrodes qui passent par le système EEG et après un traitement, les activités des différentes électrodes sont montrées sur un écran. et donc un neurofeedback qui est montré au sujet. Alors on utilise ça pour différentes applications. Alors premièrement pour les applications cliniques, donc c'est une aide à la cartographie fonctionnelle cérébrale. Ces patients-là, ils passent une semaine ou deux avec des électrodes implantées à l'hôpital, le but étant d'essayer de identifier le foyer épileptogène. Et donc, en même temps, ce que font les médecins, ce qu'ils veulent aussi, c'est avoir une cartographie fonctionnelle, parce qu'après, quand ils vont procéder à une opération pour enlever le petit bout de cerveau qui était le foyer, ils veulent aussi être sûrs qu'ils ne vont pas enlever autre chose aussi avec, qui est responsable, par exemple, pour le traitement linguistique, par exemple, ou la mémoire. Donc, il est important aussi de cartographier, et donc, pour ça, Brain TV est utile aussi, mais aussi, on l'utilise pour la recherche en ICM, pour aller chercher quelles sont les signatures des processus mentaux qui sont les plus... qui pourrait être le plus utile pour de nouvelles interfaces à vos machines. Alors, anecdotiquement, on appelle ça Brain TV, parce que donc Jean-Philippe, qui est aussi dans l'équipe, il a fait en sorte qu'on puisse utiliser aussi une télécommande pour switcher entre les différents canaux. Et les différents canaux, en l'occurrence, sont les différentes électrodes à différents endroits du cerveau implantés. Donc, le patient peut lui-même faire ça, changer de chaîne pour regarder ce qui se passe dans ce lobe occipital versus lobe pariétal, par exemple. Alors, Brainball, c'est une adaptation du système Brain TV où on affiche sur un écran une boule dont la position est modulée par l'activité cérébrale. Donc, je vais vous montrer aussi un exemple. On n'a pas trop de temps pour l'exemple de Brainball.
Combien de temps?
Ok. Alors, je ne vais pas montrer la vidéo, mais en gros, vous dire ce qui se passe. On a pu montrer chez une patiente que... Dans le cortex pariétal, il y a des signaux qui jouent un rôle dans le calcul mental. Et donc, elle peut choisir ou non, donc c'est une façon volontaire de s'imaginer des chiffres, des nombres ou des résoudre des équations. Et chaque fois qu'elle faisait ça, ça faisait augmenter l'activité dans le cortex pariétal. Donc, en combinant ça avec le système Brainball, et donc la position de la boule, elle est donnée par l'activité dans le cortex pariétal. Elle arrivait à bouger la boule à droite et à gauche uniquement en faisant du calcul mental. J'ai dit que je vais dire un petit mot sur les ICM et les jeux vidéo. Alors bien sûr, c'est un domaine de recherche qui intéresse l'industrie du jeu. L'idée étant d'inclure des mesures comme par exemple la mesure de la concentration ou aussi le degré de relaxation des gens pendant le jeu. Ça pourrait être une information de plus que les joueurs pourront utiliser pour améliorer leur performance ou pour battre par exemple quelqu'un d'autre qui serait lui moins concentré ou moins relaxé. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que bon, nous, on voit ça aussi de l'approche d'un laboratoire qui fait de la recherche en ICM, et on voit aussi les problèmes qu'il peut avoir avec les premiers prototypes qui sont sortis là-dessus. Alors, l'idée, c'est d'avoir des casques, comme vous voyez ici, pour l'application ludique des ICM. Le problème, c'est que, alors ici, c'est un casque qu'on utilise en laboratoire, avec beaucoup plus d'électrodes, avec des mesures beaucoup plus fines de l'activité cérébrale. Et vous imaginez bien qu'avec des électrodes, des casques de ce type-là, on va avoir une idée approximative de l'activité du cerveau. Donc il faut faire attention à ce qu'on achète. Je pense que ces systèmes-là vont s'améliorer dans le futur, mais pour l'instant, on est encore au début. Surtout qu'elles peuvent mesurer aussi des signaux qui sont non neuronaux. Donc, on a l'impression que c'est l'activité de votre cerveau, mais au fait, il suffit de faire des grimaces ou bouger les yeux. Ça va faire une activité qui peut être détectée par ces outils-là et qui va se transformer dans le jeu. Donc ça, c'est... une chose à garder en tête. Et ce qui est bien, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus d'interactions maintenant entre l'industrie du jeu et les chercheurs en ICM, dans des buts différents, bien sûr. Mais le résultat, c'est que c'est une histoire à suivre et je pense qu'on va voir émerger des jeux vidéo qui vont être aussi utiles d'un point de vue ludique, mais aussi pour l'apprentissage et aussi pour ce qu'on appelle le neurofeedback training. Donc on pourra utiliser ça aussi à des fins académiques et puis aussi cliniques, je pense. Alors le futur, je vais essayer de terminer assez rapidement. Alors, le futur c'est toujours mieux et en plus grand et grandiose, donc il faut tout améliorer, tout ce qui était avant c'était pas bien. Alors pour nous, la vision qu'on a au laboratoire à INSERM Alliance, c'est que le futur est tout d'abord clinique. Il y a un enjeu important. Alors je vais vous donner ici 4 ou 5 exemples. Avec les ICM, on pense pouvoir améliorer la qualité de vie des patients paraplégiques. Pour faire ça, comme les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure, on va pouvoir utiliser ces ICM pour piloter un curseur. par un bras robotisé. Et il y a même des exemples en Suisse où le sujet, avec l'activité de l'EEG mesurée sur son scalp, arrive à contrôler les déplacements d'une chaise roulante. Ça va nous permettre aussi de faciliter la communication avec des patients souffrant du syndrome de Loctine, le fameux scaphandre, le papillon. Ça va nous permettre d'améliorer certains diagnostics cliniques. Alors on pourra revenir à ça tout à l'heure. Parfois, il y a des diagnostics où il y a un certain doute. Il y a des patients en état, jugés comme étant dans un état végétatif, donc non conscient, qui en fait sont conscients. Et donc, il y a des erreurs comme ça de diagnostic qui sont faites. On pense qu'avec les interfaces cerveau-machine, on va pouvoir les détecter. Quatrièmement, l'entraînement cérébral par neurofeedback. Donc là, il y a des exemples de maladies, de troubles d'attention, comme l'hyperactivité et les déficits attentionnels, qui vont pouvoir bénéficier d'un retour en temps réel de sa propre activité cérébrale pour s'entraîner à mieux pouvoir porter attention à quelque chose, mieux se concentrer. Et enfin, la neuroréhabilitation via les ICM, ça va faciliter et accélérer la récupération motrice, par exemple, dans des patients notamment qui sont dans une phase post-AVC. Bon, ça c'était la partie clinique. Alors, améliorer le quotidien. Est-ce que c'est l'espace de travail du futur? Et donc voilà, un bras robotisé qui va vous donner votre café, le casque EEG qui vous permet d'écrire vos emails et aller sur Facebook sans utiliser les bras. D'ailleurs, on ne sait plus à quoi ça sert, les bras sont là. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vraiment mieux? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Et comment est-ce qu'on définit mieux pour le futur de la recherche en ICM? C'est une question qu'il faut se poser parce qu'on a encore la possibilité de modifier un petit peu l'orientation qu'on prend. Ce qui m'amène au dernier point, qui sont des considérations éthiques. Bien sûr, il y a des risques de dérive, et on peut se demander, mais l'ICM c'est bien, mais on voit qu'on est en train de mélanger homme-machine, jusqu'où peut-on aller? Et nous, on pense qu'il ne faut pas poser la question comme ça, c'est pas jusqu'où, mais c'est où aller. Ça veut dire qu'on ne va pas arrêter la recherche en ICM, il faut bien canaliser, orienter, avoir des choix qui sont basés sur des buts cliniques et des choix de société. Alors certains d'entre vous connaissent ce mouvement, le mouvement de transhumanisme, qui est un mouvement qui prône l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Donc c'est une espèce d'amélioration de l'humain. Donc vous voyez bien que c'est un concept qui pose, alors je ne veux pas dire qu'il est nécessairement uniquement dangereux et qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là, mais qui pose un nombre important de problèmes et de questions qu'il faut, et j'ai oublié de terminer mes slides, c'était dans le train aujourd'hui, donc ce n'est pas grave. Alors pour mieux vous exposer mon propos par rapport à ça, je vais vous faire une petite analogie. Alors à gauche, l'interface cerveau-machine et à droite, ce que j'ai appelé l'interface muscle-machine. L'idée étant qu'aujourd'hui, on peut rééduquer et compenser les déficits du cerveau via l'ICM, comme on peut rééduquer les muscles suite à un accident, ou alors entraîner le cerveau. Vous connaissez aussi le jeu de Kawashima ou les ICM qui vont permettre aussi d'entraîner le cerveau. Pareil, on peut s'entraîner, la personne qui s'entraîne. Le loisir, les ICM vont avoir un rôle aussi dans les jeux vidéo, donc ça va être améliorer notre quotidien dans le sens de... ça va apporter une application ludique. Pareil pour le sport, ça fait plaisir de faire du sport. Le dernier point, c'est l'amélioration. C'est là où j'ai une sorte de point d'interrogation ici, parce que c'est là où on se demande quelle est l'amélioration, le risque de vouloir faire un être humain qui est meilleur que l'être humain qu'on connaît aujourd'hui. Alors pour répondre à cette question, je vais vous montrer des exemples, ce que je pense peut être le... Si on continue d'entraîner par excès, on va se retrouver dans des circonstances où l'amélioration pourrait ressembler à ça. Et moi, je pense que ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Donc, il faut vraiment aller doucement et prendre le temps de bien réfléchir à ce qu'on veut faire. Et comme je disais, c'est guidé par des choix cliniques, mais aussi par des choix de société. Alors, pour conclure, puisque la thématique de ce festival tourne autour des frontières, je veux dire que si les frontières entre nos cerveaux et nos machines sont en voie de disparition, c'est le cas, on l'a vu, eh bien les frontières entre ce qui est scientifiquement possible et ce qui est éthiquement admissible doivent être débattues. Encore une fois, ce n'est pas pour contraindre l'innovation scientifique, mais pour au contraire la promouvoir dans le bon sens et avec bon sens. Voilà, je vais terminer en remerciant les équipes avec qui je travaille sur ces thématiques-là, donc l'équipe INSERM à Lyon, le Collège de France à Paris, le CHU à Grenoble et l'Université de Californie du Sud à Los Angeles. Et terminer en remerciant le festival pour cette opportunité et l'INSERM et Open Vibe, qui est un projet national sur les systèmes interface cerveau-machine. Voilà, merci pour votre attention.
Yeah. Merci bien. Donc, on a encore le temps pour quelques questions. Non, pas du tout. Oui, mais on a commencé avec du retard. On a commencé avec 10 minutes de retard. Quand même, pour une question, peut-être. Voilà. Quelqu'un aurait...
Oui, je voulais savoir, en fait, vous avez employé le mot d'imagination, imaginer le mouvement et intention. Est-ce qu'au niveau du cerveau, on repère une différence entre le fait que je visualise le mouvement que je peux faire et le fait que j'ai vraiment l'intention qui donne lieu au mouvement ?
C'est une très bonne question. En fait, on sait que dans le mouvement, on a différentes parties. Il y a la prise de décision du mouvement à effectuer, la préparation motrice qui va venir juste avant et l'exécution. On peut imaginer dans l'imagerie aussi qu'on va avoir les mêmes phénomènes. Dans l'intention motrice, en fait, ce qui est plus compliqué, c'est que l'imagerie motrice, elle est plus simple à définir, même au niveau spatial, par rapport à la distribution. On sait où aller chercher ces signaux-là. L'intention va dépendre de pas mal de paramètres. L'intention de quoi ? Si c'est des mouvements, par exemple une saccade à droite ou à gauche, on sait que les réseaux qui sont mis en jeu sont d'un autre ordre. Mais c'est sûr qu'il y a un lien entre les deux. Et moi, je ne voulais pas trop rentrer dans les détails tout à l'heure, mais si vous posez la question, j'en profite. Il y a les BCI, donc les ICM, qui vont aller chercher le vrai signal, donc l'intention de la personne, comme si c'était vraiment ce qu'elle voulait faire, mais elle n'arrivait pas à le faire, et puis traduire cette impulsion-là. Et il y a une autre catégorie d'ICM qui vont, elles, définir un code. Donc, par exemple, vous avez peut-être entendu d'une étude à Cambridge, chez des patients dans le coma, en IRMF. On a montré qu'au fait, ils étaient conscients par le fait simple de leur demander de s'imaginer en train de bouger dans un lieu ou de jouer au tennis. Et le fait que ces deux choses-là activent deux régions différentes du cerveau fait qu'on a été capable, en mesurant l'activité en IRM, de voir qu'en effet, quand on leur a demandé d'imaginer de jouer au tennis, il y avait les régions du cortex moteur qui étaient sollicitées. Et quand on leur demandait de s'imaginer de se balader dans leur cuisine chez eux, par exemple, il y avait des régions du cortex parahippocampique qui jouaient un rôle. Donc, en fait, c'était la preuve qu'ils avaient bien entendu ce qu'on leur a dit. Et c'est le même type d'activité qui a été utilisé après pour leur aider à répondre oui ou non, pour les aider à répondre oui ou non à une question. Oui, c'était jouer au tennis. Non, c'était s'imaginer faire une navigation spatiale. Donc voilà, donc c'est un peu plus complexe que ça, mais les deux sont bons à prendre pour les ICM, l'intention et l'imagerie.
Bien, je vous remercie encore. Je crois qu'on n'a malheureusement pas trop de questions pour un vrai débat. En revanche, vous restez un peu dans le coin, donc je pense que...
Je suis dans le coin et puis il y a mon mail qui est là, donc si
oui, et
vous avez
ça aura
des questions, n'hésitez pas.
Pas mal d'idées et donner envie d'en savoir plus, parce que ce sont des choses qui existent réellement aujourd'hui. C'est plus simplement des vagues idées de choses possibles. Merci beaucoup.